Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'enquête date de 2015, avant le mouvement MeToo. Elle a été réalisée par l'Institut Ipsos et l'association Mémoire Traumatique et Victimologie auprès de 1001 personnes, constituant, comme on dit, un échantillon représentatif de la population de 18 ans et plus. Les questions portent sur la sexualité des Français, mais plus précisément sur ce qu'ils considèrent comme étant un viol, sur la limite, la frontière entre le viol, l'agression et le jeu sexuel, sur nos préjugés et présupposés dans ce domaine. On y apprend d'abord qu'un Français et une Française sur quatre considèrent que dans le domaine sexuel, les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Un Français sur cinq considère également que lorsqu'on essaie d'avoir une relation sexuelle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. 22% des hommes et 17% des femmes considèrent bien noté qu'une femme qui dit non, ça veut dire oui. Enfin, une personne interrogée sur cinq estime que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Ils sont 21% exactement à penser ça, et cette conception est particulièrement bien représentée, dit l'enquête, chez les 18-24 ans qui sont près d'un tiers à adhérer à cette idée. Les Américains, eux, militent depuis longtemps, dans les milieux étudiants et les universités en particulier, pour imposer à l'inverse la notion de consentement dit affirmatif. Dans les années 90, une université de Yellow Springs avait même adopté un règlement qui exigeait l'obtention d'un accord verbal à chaque étape des rapports sexuels entre les étudiants. Une université de Californie précise même récemment que le oui doit être clair et enthousiaste. Delphine Dilly, notre productrice, travaille sur ces questions depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle a choisi pour nous deux récits qui parlent de cette zone grise, ambiguë, de cette fine frontière qui se dessine ou pas entre l'agression, l'approbation, la résistance passive et la naïveté. Deux histoires qui interrogent donc nos pratiques sexuelles et sont à écouter ou à réécouter en pensant au deuxième temps du mouvement MeToo, si courageusement lancé par Adèle Haenel et Marine Turki.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Mes parents ne m'ont jamais parlé de rapports sexuels, de se protéger, de quoi que ce soit. Jamais. Ma mère ne m'a même jamais parlé du jour où j'allais avoir mes règles. J'ai vraiment tout découvert moi-même. Et la seule approche du sexe que j'avais, c'est horrible, mais c'était les garçons qui se branlaient en classe, au fond de la classe, entre eux, concours de branlette, quoi. Enfin, et moi, j'étais souvent au fond de la classe parce que mon niveau scolaire a chuté à partir du divorce de mes parents, donc en sixième. Et je me suis retrouvée souvent au fond de la classe avec ces mecs. Je me souviens, ils étaient 4-5. Ils avaient déjà, je pense, redoublé quelques classes, mais pas tous. Et le jeu, c'était de se branler sous la table, en sachant que n'importe qui pouvait les surprendre. Donc, des filles comme moi. Moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Et ma meilleure amie de l'époque, ma mauvaise fréquentation, on va dire, son père... tenait des sex shops dans le sud de la France, donc c'est vrai que les premières fois, je sais pas, j'avais 9 ans, j'avais un vibro dans la main, j'ai vu voir un porno, enfin ça, les premières images de sexe que j'ai vues, je voyais pas que ça pouvait être beau, qu'il pouvait y avoir de l'amour, qu'une femme pouvait prendre du plaisir, je voyais ça comme un truc hyper macho, animal, où la femme est tout le temps rabaissée, donc c'était plutôt ça l'image que j'avais du sexe à cette époque-là. Alors c'était en juin 2001, donc j'étais au collège, j'étais en troisième. Et je traînais pas mal avec les garçons. On était à moto, enfin souvent en moto, sans casque... à traîner dans le village parce que j'ai grandi dans un village, donc dans l'arrière-pays du sud de la France. Et Bah, comme tous les fins d'après-midi, vers 17h, j'arrivais et puis il y avait ces mecs qui traînaient à l'arrêt de bus, qui étaient plus âgés, qui devaient avoir 17-18 ans, qui dealaient sans doute. Et puis un soir, je me suis arrêtée pour discuter un petit peu avec eux. Et moi, j'avais vraiment interdiction de faire ça. Hein. Je vais à chaque fois rentrer tout de suite à la maison parce que c'était un quartier pas dangereux, mais c'était toujours. Il y avait toujours plein d'histoires qui se passaient là, quoi. Et un soir, j'ai parlé à ce garçon. Ça devait être, t'as du feu, oui, tiens, voilà du feu, ça te dit de fumer un joint, je sais même plus, j'ai dû dire non, je dois rentrer chez moi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on peut se voir demain. Et il m'a donné rendez-vous pour le lendemain matin, vers 7h, l'heure où je prenais mon bus. Même un peu avant, 6h40. Et c'est vrai que, oui, bah, des petits papillons dans le ventre, parce qu'un garçon vient de parler, tu lui plais possiblement, et on peut dire que c'est un très beau garçon, plus âgé que moi, mat de peau, les yeux clairs, enfin, un garçon dont toutes les filles rêvaient. Et donc, comme un matin comme les autres, je suis sortie avec mon sac en disant au revoir à ma mère, je partais à l'école, quoi. Et du coup, j'y suis allée. Un peu quand même avec la boule au ventre. Je savais que je faisais une bêtise, tu vois. Il était là avec ses copains, en train de fumer un joint. Et puis là, il me dit, cool, t'es venu. Enfin, viens, on va discuter un petit peu. Enfin, on va marcher un petit peu. Et donc, on part de l'arrêt de bus. On va derrière le restaurant. Il y a un restaurant juste en face. Et derrière, il y a des terrains vagues avec la caravane. Donc c'était dégueulasse, hein, évidemment, c'était une caravane de squat, avec du PQ partout, des vieilles casseroles, enfin. Et on rentre dans la caravane, et puis, je sais pas, les seuls échanges, ça devait être, ça va, tu vas bien, enfin, on n'a pas discuté du tout, en fait. Et il a commencé on était assis sur la banquette de la caravane. Et il a commencé à enlever son pantalon et à me sortir sa bite. Enfin, il bandait, quoi. Et du coup, je pense qu'il m'a quand même embrassée, hein. J'espère. Je me souviens très mal, parce que c'était il y a quand même 16 ans, mais il m'a embrassée, et puis il m'a gentiment amené la tête en bas, quoi, sous la ceinture. Et moi, j'ai approché et puis je me suis reculée parce que c'est pas quelque chose, je l'avais jamais fait, puis j'avais pas envie tout simplement. Mais c'est pas grave, il a continué à me mais si, vas-y, fais un effort, enfin voilà, il me tenait la tête et donc je l'ai sucé. C'était vraiment une expérience affreuse, hein. Mais en même temps, moi je me suis dit, ça doit être les préliminaires, ça doit être normal, on commence comme ça. Sans doute, je sais pas, j'ai jamais fait, donc. Et puis ensuite, il m'a allongé sur le dos, donc je me suis allongée sur le dos, il m'a déshabillée juste en bas. Et voilà, il m'a sans capote ni rien, il m'a pénétrée. Moi, j'étais pas, imagine, j'étais pas du tout excitée, donc c'est pas passé très bien. Et donc voilà, il a pas pris de pincettes, il y est allé, quoi. C'était énergique, c'était assez violent. Mais en même temps, c'était lui, donc moi je le regardais plutôt avec des yeux de tendresse et d'amour et c'est ma première fois et c'est lui, je suis contente parce que je l'aime beaucoup, parce que il est vraiment beau et pourquoi pas au final, et peut-être que c'est comme ça, on a tous un jour entendu que la première fois ça fait mal, hein. Tu l'as déjà entendu dans je ne sais où, mais en tout cas ça je le savais, donc je me suis dit c'est normal, j'ai mal, c'est normal. Et il se retire et la seule réaction qu'il a eue, c'est « t'es même pas vierge ?» Parce qu'en fait, il n'y avait pas de sang. Mais je pense que c'est juste parce que j'étais allongée et que c'est pas sorti, ou j'en sais rien. Mais... Donc il me dit ça, « t'es même pas vierge ?» Et moi, je le regarde, je dis si. » Et puis il dit « Je vais chez les frères, il y avait 4 frères qui habitaient pas loin, que je connaissais, dont un plus jeune était en ma classe. Rejoins-moi si tu veux, prends une douche. » Et il se casse. Et donc moi, je me retrouve toute seule là, dans la caravane, un peu choquée en même temps. J'étais un peu... je sais pas, je viens quand même de me faire dépuceler, quoi. Et donc, je me rhabille et je vais là-bas. Chez les frères machin qui étaient tous là, autour de la table, en débardeur, en train de rouler des joints, de regarder le foot. Tout le monde sait ce qui vient de se passer, évidemment. Et je demande à prendre une douche. Un des frères me monte la douche et c'était une baignoire. Et donc, je me suis déshabillée, je me suis rincée, j'étais au milieu du linge. Il y avait le linge de toute la famille au-dessus de moi, tu sais. Et là, je vois que je saigne. Bah forcément, oui, je saigne. Et donc je me nettoie, je me rince. Et voilà, je me rhabille. Et puis je redescends. Et puis, je m'assois 5 minutes, mais j'ai même pas envie de... Enfin, j'ai rien à leur dire. Enfin, en même temps, je suis sous le choc encore. Lui, il me regarde même pas. Je dis, bah, je vais y aller. Et il me dit, OK, salut. Donc voilà, je me retrouve, il doit être 8 heures du mat, même pas 8 heures du mat. Et non, en fait, je rentre pas chez moi parce que je crois que ma mère est encore là. Donc je passe devant chez moi en me cachant un petit peu, en allant au village. Et puis là, j'ai erré toute la journée, en repensant à tout ça, ne pouvant en parler à personne. Ben, je rentre après, en fin de journée, comme tous les jours. Chez moi, pour faire mes devoirs, comme si j'avais passé une journée à l'école, alors que pas du tout. Et puis, bah oui, alors là, du coup, il fallait penser à un moyen de contraception. Parce que j'allais pas être enceinte. Ça, je savais que si un garçon venait en moi, vu que j'avais déjà mes règles, j'allais forcément tomber enceinte. Donc, je suis allée donc à la pharmacie et j'ai demandé la pilule du lendemain. Que j'ai pris, ça m'a fait horriblement mal. J'ai vraiment eu mal au ventre pendant les 2-3 jours qui ont suivi. C'était affreux. Et après, je l'ai recroisé, comme tous les jours, à l'arrêt de bus. Et puis, il me regardait juste, il me disait même pas bonjour. Et j'en ai parlé à personne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout écrit dans un journal. Des petits cahiers de brouillon bleu. Brut comme ça, à vif, j'ai tout écrit mot pour mot ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et un jour, je suis rentrée du collège et ce journal était ouvert sur mon bureau, dans ma chambre. Et donc, ma mère avait lu, je sais plus combien de temps après, enfin, de toute façon, peu importe, mais elle est tombée dessus, donc elle a vu déjà toutes les conneries parce que j'écrivais vraiment tout, hein. Tout ce que je faisais, hein. Fumer des joints, faire le mur, traîner dehors. Et j'ai vu, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai vu ce journal ouvert et j'ai fait une crise en fait. Je l'ai pris, je me suis retournée vers ma mère qui était aussi énervée. Alors que je pense que la réaction qu'elle aurait dû avoir c'était ma chérie, ça va, viens, on en parle. Enfin, non, elle s'est énervée. Et donc je suis partie en courant de chez moi, je suis allée brûler ce petit carnet, ce journal. Ce cahier, je suis allée le brûler. Puis ma mère ne m'a jamais parlé de ce qu'il y avait dans ce carnet. J'ai jamais eu cette discussion de première fois avec ma mère. Jamais. J'en ai parlé assez tard. J'étais au lycée, je devais avoir 17-18 ans. Parce qu'à un moment, et toi, ta première fois, moi j'ai raconté ma première fois comme ça, et mes amis me regardaient avec des yeux écarquillés, avec waouh, ah ouais, toi c'est ta première fois, c'est un viol en fait. Je te dis, mais non, c'est pas un viol, parce que en même temps, je l'aimais beaucoup ce garçon, mais c'était violent. C'était pas un viol, mais c'était violent. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis c'est pas normal non plus. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle la zone grise. France Culture, les pieds sur terre.
Donc je peux te lire le début de ce que j'avais écrit à l'époque. Les voilà posés, ces mots dont je ne croyais jamais avoir le courage d'écrire. cette histoire qui m'empêche d'inventer, qui m'oblige à parler à la première personne du singulier. Le plus gros y est, mais les détails ne me reviennent qu'à présent. On pourrait ironiquement appeler ça un premier brouillon. Dehors, la nuit est tombée et le ciel pleure. J'avais 14 ans. Hein.
T'inquiète pas.
Je suis dans mon lit. Je m'appelle Margot, j'ai 26 ans maintenant. Et cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans. À 14 ans, du côté des garçons, j'étais plutôt une grande amoureuse. Et puis j'avais envie de tomber amoureuse et envie de vivre ces choses-là que je vivais à travers des chansons ou à travers des romans. Voilà, j'avais envie de ces grands sentiments-là. Et d'un autre côté, j'ai vécu dans une petite campagne où il y avait quand même une ambiance assez machiste qui régnait dans ce village et dans ce collège. D'autant plus que je faisais beaucoup de sport à cette époque-là. Je faisais du kayak, que j'y passais énormément de temps et je m'y suis beaucoup investie physiquement, dans les entraînements, dans mes activités. Enfin, ça représentait beaucoup de temps dans mon emploi du temps. Il y avait beaucoup de garçons qui avaient 18-19 ans. Et il y avait quelque chose d'extrêmement donc macho, comme je l'ai dit, mais à des endroits très étranges. Par exemple, cette image est absolument horrible, mais elle me revient souvent en tête. Un jour, mon moniteur de kayak a collé sur le pare-soleil du camion pour rigoler. Et ça le faisait beaucoup rire, une phrase qui dit « Celle qui entrera ici, donc dans le camion, le sourire aux lèvres, repartira la culotte à la main. » Et donc, du coup... Nous, on était plusieurs jeunes filles à faire du kayak. Fallait qu'on trouve une place à l'intérieur de ça. Et c'est l'impression, en tout cas, que j'avais, moi, à cette époque-là, c'est qu'il fallait que je sois soit la fille masculine, très forte, qui réussit les compétitions et qui est complètement... une femme-homme, quoi, en fait, qui est à la hauteur, en tout cas, de ces hommes avec qui on navigue. Ou alors être... le pendant de ce truc-là, c'était la salope, quoi. Donc, fallait se positionner entre les deux. Et je crois que... Les deux choix que j'avais l'impression qu'on me proposait, en tout cas, me plaisaient pas du tout. Et il y avait cet entraîneur qui était un mec hyper jeune, hyper rigolo, fêtard. Qui représentait un peu le grand frère, quoi. C'était le mec hyper cool, qui nous entraînait, mais qui était à la fois dur et sympa, qui t'emmène quand même là où tu penses pas aller au niveau sportif, mais qui t'en de côté, après, te dit quoi faire pour aller mieux. Enfin, il y avait un truc très... je dirais bienveillant un pédagogue, a priori. D'un autre côté, il était capable de sortir des trucs absolument dégueulasses sur les filles, des trucs... du coup, je savais pas, mais quand même, je l'admirais au point d'oublier toutes ces choses assez immondes qu'il disait. Et en plus de ça, on faisait régulièrement des stages, où on partait quelques jours, on vivait sur place, on naviguait la journée, et on vivait ensemble quelques jours. Donc il y avait aussi ce rapport-là de proximité. Enfin, c'était génial, quoi. On quittait les parents, on partait avec les copains, on naviguait. Le soir, on rigolait avec les grands. Enfin, il y avait un truc comme ça qui était incroyable. C'était un stage, je pense. On était parti pas loin de Pau. C'était en hiver. Il faisait assez froid. C'était des conditions difficiles, en fait. Puis moi, j'avais pas mes copains d'habitude avec moi. Et les garçons se mettaient à picoler pas mal. Et voilà, je me souviens être montée vraiment pas très tard, en me disant faut bien dormir pour demain, quoi. Et à un moment donné dans la nuit, je ne saurais absolument pas dire quelle heure il était. Je me réveille avec une présence à côté de moi sur mon lit. L'entraîneur était là, il avait l'air perdu, clairement, ou sous, je sais pas trop, enfin, il bougeait pas trop. Et moi, dans le sommeil, il me semble que je lui ai attrapé l'épaule et que je l'ai couché à côté de moi en lui disant faut dormir maintenant. Et je me souviens avoir caressé sa tête un petit moment dans un geste. Affectif complètement désintéressé. Oh, t'es perdu, qu'est-ce qui se passe? Je suis endormie, couche-toi là, c'est pas grave, t'iras mieux demain, quoi. Enfin, un truc assez naïf finalement. Et je me souviens que on a commencé à s'échanger des caresses plutôt sensuelles. Et moi, je me souviens d'avoir été, enfin, d'être très ensommeillée à ce moment-là. C'est-à-dire que les choses se passaient, mais je comprenais pas trop. Et d'un autre côté, il y avait quand même quelque chose du désir qui se réveillait en moi, puisqu'on se frottait assez. Enfin, il y avait quelque chose que je sentais monter en moi, qui était du désir, lié à ce contact physique proche. Jusqu'au moment où il a dit, allez, viens, on va faire ça ailleurs. Et je l'ai suivi. Je sais pas pourquoi, comment, je l'ai suivi. Et il m'a emmené aux toilettes. Et j'ai cette image et cette odeur, surtout, qui est hyper forte dans ma tête, où ça sentait le sexe d'homme, mais sale. Enfin, il y a ce truc-là de mélanger à de la pisse. Enfin, et je l'analyse, cette odeur, comme quelque chose qui m'a donné un peu un signal, enfin une alerte, quoi. Je me suis dit, c'est trop glauque, c'est trop bizarre. Et à ce moment-là, j'ai vu sa main passer à côté de mon flanc droit pour fermer la porte à clé. Et il me semble qu'il a commencé à me déshabiller. Et je le sentais derrière moi, il avait enlevé son pantalon, je pense. Et là, j'ai eu un moment de... Comme on respire après avoir fait de l'apnée sous l'eau, de... Ça n'a pas du tout ce qui se passe, en fait. Et donc, je lui prends la main et je lui dis, je te raccompagne dans ta chambre. En lui disant, écoute, ça va pas, il y a un truc qui marche pas là, enfin, c'est pas normal. Ah ouais, tu me raccompagnes dans ma chambre, machin. Et on est arrivé dans le dortoir des garçons, où je le mets sur son lit. Et il me dit, tu veux pas venir ? Et là, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais tu dis oui, je vais venir à côté de toi. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas à me dire... j'avais envie de ça, j'avais besoin de le réconforter. J'en sais rien, en fait. Vraiment, j'en sais rien. C'est-à-dire que... Je sais pas, les choses se passent à un moment donné, et puis tu sais pas quoi. Et ça a duré jusqu'au moment où il m'a mis sur lui, et où il a essayé de me pénétrer. Et où ça n'a pas marché, parce que je pense que de toute façon, j'étais complètement bloquée, quoi. Que je réagissais pas trop physiquement, et j'étais assez figée. Ça a refait tilt, et j'ai repris une respiration en dehors de l'eau, et j'ai dit non, ça peut pas se passer comme ça. Et il s'est mis à côté de moi et je me souviens qu'il m'a dit il faut absolument que t'en parles à personne parce que je vais aller en prison et il faut pas en parler. Ah, d'accord, bon. Et j'ai fini par remonter dans ma chambre et c'était atroce parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Et j'ai eu besoin de me laver plusieurs fois le lendemain matin et je sentais clairement salie. Il y avait clairement un truc dans mon corps qui avait changé à ce moment-là. Et je l'ai recroisé le lendemain matin au petit-déj, et le lendemain, il fallait aller sur l'eau, affronter les gros remous, enfin, c'était l'enfer, quoi. Il me disait, il faut que t'en parles à personne, il y avait ce secret-là entre nous qui quelque part, nous rapprochait aussi, nous donnait un rapport qui était très, ouais, très proche, très particulier. Mais je me suis dit, ok, j'en parle à personne, ça aurait pas dû arriver, mais j'en parle à personne parce que je l'aimais bien. Et en fait, c'est lui qui a fini par dire à mes parents, il s'est passé un truc. Il faut pas que vous portiez plainte, mais il s'est passé un truc. Je me souviens que c'était un soir, ça a dû arriver 2 jours après que je sois rentrée. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai essayé de raconter ça avec mes mots, avec les éléments que j'avais, que j'avais plus ou moins réussi à rassembler, à prononcer face à mes parents. Et mes parents ont dit, ok, on va aller porter plainte. Et mes parents m'ont vraiment dit « En fait, c'est grave, Margot. Réalise que c'est grave et qu'on va aller voir un gynécologue, on va aller voir les gendarmes et ça va pas rester comme ça. » Et donc voilà, je me retrouve face à ce gendarme avec mes parents à côté. Non, mes parents n'étaient pas là. Et donc lui, qui essaie de comprendre avec beaucoup d'acharnement cette histoire-là, c'est son boulot, tout ça, et qui finit par me dire « Alors bon, excusez-moi, la question est un peu crue, mais bon, voilà. » Est-ce que vous avez mouillé à ce moment-là ? Et là, tu dis, non, je crois pas. Et il m'a dit, voilà, pour que ce soit considéré comme un viol, il faut qu'il y ait agression, il faut qu'il y ait pénétration, et le dernier, j'arrive.
Menace ?
Je sais plus, peut-être, mais je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, mon cas ne rentrait pas dans leur case. Et là, c'est encore plus difficile, parce que du coup... Bah, tu sais pas comment appeler ça. Tu dis, c'est passé quelque chose avec telle personne. Et toi, tu sais, Et tu portes en toi l'ambivalence qu'il y a eu à ce moment-là. Donc tu dis, bah, j'ai un peu fait ça. Et du coup, tu parles comme si c'était toi qui étais responsable de ce truc-là. Alors qu'en fait, si ça avait un nom, juste on comprendrait qu'il y avait, que la situation était complexe et qu'il y avait la complexité à prendre en compte, quoi. Là, c'était pas un viol. Très bien, tant mieux pour moi. Mais il s'est quand même passé quelque chose et personne était capable de me dire ce qui s'était passé. L'histoire a pris de l'ampleur. Je sais pas comment, pourquoi beaucoup de gens ont été au courant. Les gens savaient que, en fait, j'avais pas été dépucelée à proprement parler, que j'avais toujours mon hymen et que voilà. Il y a eu un bouclier qui s'est formé contre moi pour le sauver lui, quoi. Ou bien sûr, c'était moi la responsable de ce truc-là. Et de copains de l'époque qui m'ont plus parlé, j'ai eu du mal à refaire du kayak après, j'ai dû aller dans un autre club où il fallait une demi-heure de route, machin. Enfin, c'était compliqué, en tout cas, de retrouver une vie sociale normale parce que tout me rappelait à cette histoire-là, quoi. Et des suites de l'enquête. Donc, il a eu un rappel à la loi, ce qui était déjà un soulagement dans le sens où il n'y a pas eu de non-lieu prononcé.
Toi, ça t'avait fait du bien ?
Oui, c'était bien parce que... Enfin, j'imagine que s'il y avait eu non-lieu, ça aurait été terrible. Mais au moment où ça arrivait, c'était tant mieux et pff, laissez-moi oublier, quoi. Et j'ai mis un temps fou avant de plus me sentir coupable de ça. Mais parce que j'avais eu ma part dans l'engrenage. Et d'un autre côté, j'ai jamais agi en souhaitant que cette chose-là arrive. Je crois vraiment. Ou peut-être, mais enfin, j'en sais rien en fait. Mais juste, j'ai mis du temps avant de réaliser qu'à 14 ans, on n'est pas en mesure de prendre ces décisions-là et puis de savoir ce qu'on veut aussi physiquement, ce qu'on désire pas. Enfin voilà, j'ai pris un temps fou avant de me déculpabiliser de cette histoire-là, quoi.
You have failed and fallen as I have, and long to be forgiven. Walk out under the graphite sky, past the grey-edged alders.
C'était Le Consentement, un reportage de Delphine Dilly réalisé par Cécile Lafon et diffusé pour la première fois le 28 août 2017. Merci à Anita, à Margot, à Blandine, à Zineb, à Marine et à Grégoire. C'est Aurélie Marcel, attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est François Connac qui s'est occupé de cette remise au goût du jour.